Merci de passer cette soirée sur BFM TV. On est ensemble jusqu'à minuit. Ça a été un moment fort cet après-midi à Incarville dans l'heure, le silence du recueillement. L'hommage rendu à Arnaud Garcia et Fabrice Moello, ces deux agents pénitentiaires tués lors de l'attaque de leur fourgon mardi. Des centaines d'anonymes, des élus étaient présents, ainsi qu'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui a précisé un peu plus tôt que les enquêteurs avançaient bien. Il assure que l'on retrouvera ceux qui ont fait ça, Mohamed Amra et les membres du commando, avec une question centrale: à qui a-t-on vraiment affaire? Quel lien celui qu'on surnomme la mouche entretient avec le narcotrafic? Écoutez le témoignage d'une de ses connaissances qui a grandi dans le même quartier que lui.
Ça fait très longtemps qu'il est parti du quartier. C'est quelqu'un, à cette époque-là, il était déjà assez filou, quelqu'un qui était dans une volonté d'un peu de se faire remarquer, à la fois de ses professeurs quand il était encore scolarisé, mais aussi dans le quartier, les rapports qu'il entretenait avec les gens, etc., etc. Voilà, mais c'était pas... On n'avait rien de constaté, je dirais, d'alarmant à ce moment-là. Mais c'est quelqu'un qui a très vite et très longtemps bougé, un peu à droite et à gauche. Scolairement parlant, ouais, c'était compliqué. Il a décroché en troisième. Il était scolarisé dans un collège ici à Rouen, et puis ça a été compliqué pour lui. Et puis après, derrière ça, d'un point de vue familial, c'était compliqué parce que il avait des parents qui ont été très vite séparés, divorcés. Et très tôt, il a connu des déboires judiciaires, et d'un événement à un autre, malheureusement, ça a été succinct, et puis on en est arrivé à ce stade-là, quoi. On avait déjà vent à l'époque des petits larcins qu'il commettait, et forcément, on avait connaissance que comme quoi il s'était déjà fait arrêter par la police, etc., etc. Ouais, des vols par effraction, il avait déjà un problème aussi avec l'autorité de manière générale. Après, ce qui s'est passé, bien sûr que ça nous a tous surpris. Dans le quartier, tout le monde y condamne ce qui s'est passé. Tout le monde il est en état de choc. Bon, on est connu ou qu'on n'est pas connu, mais en fait là, la question elle se pose même plus. Il y a eu des morts, des victimes et des familles qui pleurent en fait des morts. Donc à partir de ce moment-là, en fait. Plus de questions à se poser, en fait. Je pense pas qu'on aurait pu imaginer que ça en arrive à ce stade-là. C'est surtout ça, en fait.
Voilà le parcours chaotique de Mohamed Amra, raconté par une de ses connaissances. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, nous a rejoint. Bonsoir Dylan Slama, vous êtes avocat pénaliste. C'est intéressant aussi, Dominique Rizet, il ajoute ce témoin qu'on a pu interroger. Il explique d'ailleurs pourquoi on le surnomme la mouche, Mohamed Amra, parce que c'est quelqu'un qui restait jamais en place, que c'était un baroudeur. Et c'est marrant parce qu'il dit c'est un solitaire, il n'avait pas beaucoup d'amis. Bon, ça a changé parce qu'il s'est fait des amis. Oui. Depuis.
Mais au mauvais endroit.
Au mauvais endroit.
Vous avez remarqué que ce témoin, il se prononce souvent le mot compliqué. Ouais. C'est compliqué, c'était compliqué. Ouais. L'école, c'était compliqué. Le collège, c'était compliqué.
La famille, c'était compliqué.
La famille, c'était compliqué. Oui, c'est fait des amis, parce qu'en prison, on se fait des amis. Et puis, on rencontre souvent les mauvaises personnes. On dit parfois, la prison, c'est l'école du crime. Il y a des gens qui rentrent en prison, qui sont des petits délinquants, qui ont piqué quelque chose dans une station-service, et qui vont rencontrer... Bon, qui vont être turbulents, on va les mettre en détention pendant une semaine. J'ai rencontré un garçon qui avait 22 ans à la centrale de Saint-Maur, il n'avait jamais tué personne, il avait fait des vols, et puis en prison, il s'était bagarré avec des surveillants, il s'est retrouvé en centrale, à l'isolement, et il s'est pendu.
Il n'a pas 22... rencontré n'importe qui en prison, qui l'a rencontré précisément?
Il a rencontré des trafiquants de drogue, des gens qui ont proposé d'entrer dans le business, qui lui ont expliqué qu'il y avait de l'argent à se faire, et il a accepté, et il est parti là-dedans, parce que c'est quelque part la solution de facilité, et que quand on a du temps à perdre en prison, eh bien on le passe avec des gens avec lesquels on prépare la sortie de prison. Dans le mauvais sens du terme, pas les conseillers d'insertion de probation et les gens qui vont vous aider après, ces personnes précieuses de l'administration pénitentiaire, mais des voyous. On se donne rendez-vous à la sortie et on va t'aider, on va te proposer ça. Et visiblement, il était en train d'y aller. Il avait 13 condamnations pour des affaires de vol avec effraction, de violence, mais rien en tout cas qui soit du business avec les stupes. Et là, il avait deux affaires qui allaient venir, deux affaires de stupes. Il n'a jamais été condamné pour stupéfiants, hein, Mohamed Amra.
Mais il est mis en examen pour complicité de meurtre.
Dans deux dossiers.
Dont un qui nous intéresse particulièrement parce qu'il est lié à un gang marseillais très, très célèbre.
Les Blacks.
De quoi il s'agit précisément?
Il s'agit d'un règlement de compte qui s'est passé à Marseille. Et Mohamed Amra avait rencontré quelqu'un en prison. Et cette
donc
personne.
Donc un caïd de ce gang.
Un caïd de ce gang. Et derrière, il y aurait, je vais mettre ça au conditionnel, puisqu'il y a un dossier d'instruction qui est en cours, on le soupçonne d'avoir participé à la désignation ou à l'élimination, en tout cas l'enlèvement et l'élimination d'un trafiquant qui faisait partie du milieu kosovar. Voilà. D'où la question que pose son avocat Hugues Vigier, qu'on a eu au téléphone sur BFM, qui dit, et si c'était pas quelqu'un qui soit venu l'arracher et le remettre en liberté, si c'était quelqu'un qui soit venu l'enlever, le kidnapper.
Enfin, on aurait probablement retrouvé son corps déjà s'il s'agissait d'une vengeance, non?
Pas forcément, c'est peut-être quelqu'un qui veut le faire parler, qui veut lui faire dire des choses, qui veut le faire payer, mais autrement qu'en l'abattant dans le fourgon. Vous voyez? Moi, je ne suis pas un trafiquant de drogue, mais on imagine tout parce que dans ces milieux-là, il y a tellement d'enjeux. Puis, vous savez, il y a aussi l'honneur. Hein, il n'y a pas que. Donc, il serait sur une histoire de carottage de 90 kilos de.
C'est ça, il aurait monté un plan pour voler une livraison de résine de cannabis. Une opération qu'il aurait dirigée depuis sa cellule de la prison de la Santé à Paris, où il a été transféré. Et cette opération, en fait, s'est mal passée. Il y a eu un mort. Et c'est pour ça qu'il est accusé de complicité.
Périne, on parle de 90 kilos de cannabis, c'est rien. Quand les gendarmes ont trouvé 1,5 tonne de cocaïne.
Derrière, il y a quand même un des gangs les plus puissants.
Il y a une question d'honneur. De ceux-là en face vont dire, nous, on ne cesse pas carotter sur 90 kilos de cannabis, même si ce ne sont que 90 kilos de cannabis.
Alors justement, Lisa, que sait-on du clan des Blacks auxquels donc Mohamed Amra serait lié?
Le clan des Blacks, c'est le nom donné à une fratrie originaire d'une cité du quartier des Lauriers dans le 13e arrondissement de Marseille. Ils sont connus pour trafic de stupéfiants et règlement de compte. Et depuis 2008, plusieurs affaires sont reliées à cette fratrie. Les chefs, pour la majeure partie d'entre eux, ont été emprisonnés en 2015, dont Djoussouf, surnommé le sénateur, et Oukoutoub, surnommé Beurre, respectivement condamnés, vous le voyez, à 12 et à 10 ans de prison. Ils seront donc bientôt sortis. Le rival principal de ce clan des Blacks, c'est le clan des Gitans. Depuis plus de 15 ans, la famille du clan des Blacks est en guerre avec la famille Bengler. Eux viennent de la cité des Cèdres. C'est aussi dans le 13e arrondissement de Marseille. Et les deux frères à la tête de ce clan des Gitans s'appellent François et Nicolas. Et ils braquent des nourrices pour récupérer la drogue qu'elles cachent. Le clan des Blacks se venge. C'est le début d'une guerre des gangs dans laquelle Kalachnikov et pistolets sont les armes utilisées fréquemment. Et au fil des morts et des condamnations, les deux clans se font toujours face, même depuis les cellules de prison desquelles ils arrivent à gérer leur business, même si, vous l'avez dit, Périne, il n'est jamais aussi bien géré que dehors.
Merci Lisa pour ces explications. Bonsoir Denis Trocero. Vous êtes ancien journaliste police-justice pour la Provence, auteur du livre Règlement de compte à Marseille, une histoire de la violence dans la cité phocéenne. Est-ce que vous aviez déjà entendu le nom de Mohamed Amra?
Pas du tout, quasiment pas. Quand j'en ai parlé ces derniers jours à mes sources policières, il le plaçait plutôt dans le spectre moyen du trafic de drogue. C'était pas pour eux, ils le classaient pas au niveau des Mézianis.
C'était pas un grand voyou, quoi.
Voilà, ou de Mohamed Jia, qui tous deux ont été arrêtés récemment et qui sont présentés comme les boss des Olivia ou de la Castellane, cité bien connue à Marseille. Donc c'est vrai que ça a surpris à certains égards de voir cet homme se livrer à cette opération aussi violente que millimétrée, qui a causé la mort de deux agents pénitentiaires.
De ce que l'on comprend, c'est qu'il a noué des liens avec ce gang des Blacks lorsqu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes. En quoi le profil de Mohamed Amra a pu intéresser le gang des Blacks?
Écoutez, on essaie de reconstituer les choses petit à petit. En tout cas, c'est ce que me disent les enquêteurs. Mais comme le disait Dominique Frérisé tout à l'heure, à juste raison, la prison est souvent aussi, si c'est une école de la réinsertion, c'est aussi souvent une école du crime, et les rencontres qui se font sont aussi parfois l'occasion de tisser de nouveaux projets qu'ils vont installer à l'extérieur. Mais Mais en tout cas, là, en l'occurrence, on n'imaginait pas, aucun policier que j'ai rencontré depuis, n'imaginait que Amra puisse être à l'origine d'une telle opération, telle que celle qu'on a vécue.
Je reviens vers vous dans un instant, Denis Trocero. Dylan Slama, la prison, c'est un pôle emploi pour les trafiquants, pour recruter les profils qui les intéressent ?
Mais c'est sûr, Dominique Rizet le disait, la prison, l'école du crime, c'est clair. Il est clair que, vous savez, il y a le film Un prophète de Jacques Audiard qui montre très bien ça. Quelqu'un qui rentre petit délinquant et qui en sort chef de gang quasiment. Et c'est une réalité.
L'évolution peut se faire en prison ?
L'évolution peut se faire en prison, bien sûr. Les rencontres se font en prison, l'évolution se fait en prison. On l'a vu un peu dans ce dossier, mais c'est une réalité. Il y a des trafics, il y a des infractions.
Non, parce qu'on apprend quand même qu'à la fois, on apprend, alors peut-être avec naïveté, pardon, mais que c'est à la fois un pôle emploi, mais c'est aussi un centre de opérationnel d'où on mène des opérations, d'où on dirige des opérations, d'où on commandite des vols.
C'est ce que je disais, bien sûr. Il y a beaucoup d'infractions qui se passent en prison pour tout un tas de raisons. D'abord parce que si jamais il y avait pas, alors je vais pas dire du laisser aller, mais parce que c'est aussi une manière d'acheter la paix sociale. Et si vous voulez, les surveillants et l'administration pénitentiaire savent qu'il y a des portables, savent qu'il y a du cannabis en prison, et je vais pas dire qu'ils laissent faire, mais on va dire que ils savent aussi que si jamais ils savent très bien que si jamais le jour où il y a zéro portable,
sociale, voilà,
le jour où il y a zéro, bien sûr, le jour où il y a zéro portable et zéro gramme de cannabis en prison, ça explose. Et ça, tout le monde le sait aussi. Je pense que c'est aussi une réalité du milieu carcéral français.
C'est le cas, Dominique ?
Bien sûr, évidemment, et ça fait très longtemps. C'est les portables en prison, c'est monnaie courante et
mais ça, c'est documenté, hein. L'Observatoire international des prisons, tout ça est documenté depuis très longtemps, et tout le monde sait que tout le monde sait. C'est documenté que la prison est criminogène.
Alors, c'est une illustration parfaite.
Ça sert pas qu'aux malfaiteurs, parce que, à une époque, les portables étaient écoutés, notamment ceux des terroristes, parce que, c'est une prison qui est posée au milieu de la campagne, je parle pas des Mohamed, il y a plein de prisons qui sont posées au milieu des campagnes françaises. On laisse, parfois, on peut laisser quelqu'un utiliser son téléphone, parce que on l'écoute. Il n'y a pas beaucoup de téléphones qui émettent la nuit. On sait quel téléphone émet. On écoute et on écoute les conversations parce que, de fait, celui qui parle sur son portable dans sa cellule, il est sûr que personne ne sait.
Donc on a tout intérêt pour les enquêtes à maintenir les téléphones.
Il y a des services qui écoutent.
Et paradoxalement, on se dit aussi qu'il est passé sous les radars, alors même qu'il y a des possibilités d'écoute, et il est passé sous les radars. On ne s'est pas rendu compte qu'il était beaucoup plus haut dans la hiérarchie du crime que ce que son CV ne voulait bien le laisser paraître.
Ouais, après, encore une fois, Dominique Rizet l'a dit, enfin, il y a l'hypothèse où il serait victime d'un commando, il y a l'hypothèse, enfin, on peut tout imaginer, il y a aussi l'hypothèse où, si vous voulez, tout en étant, en n'ayant pas été kidnappé, il ne soit pas le principal organisateur de ce qui s'est passé. Il peut avoir été sauvé, j'ai presque envie de dire, à l'insu de son plein gré. C'est quelque chose qui est aussi possible, que ce soit des proches à lui qui se sont dit on va aller le chercher et que lui ne soit pas au courant, ne serait-ce que parce que s'il est au courant, c'est plus dangereux d'aller le chercher.
Denis Trocero, les liens avec le gang des Blacks, est-ce qu'ils peuvent nous donner des indications sur les membres de ce commando qui sont venus le chercher ?
Oui, mais c'est toujours difficile dans la mesure où souvent les équipes sont à tiroir. Elles sont en totale recomposition et donc à chaque fois pour les enquêteurs, c'est un travail de reconstitution permanent. Et puis surtout avec les phénomènes que l'on constate de plus en plus, qui a sidéré la commission d'enquête parlementaire sur les narcotrafics. J'ai eu ce matin la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui me disait que le phénomène des jobbers, c'est-à-dire ceux qui viennent soit de toutes les régions de France, sans doute comme M. Amra
ou de l'intérim à Marseille.
Parce qu'ils pensent y trouver l'Eldorado et qu'ils se retrouvent séquestrés au fond d'une cave, torturés pour des dettes qu'on évoquait tout à l'heure, pour des carottages. Mais parfois, ce sont des dettes purement fictives qui leur sont inventées. Voilà, ça, si vous voulez, ça constitue une manne humaine et un réseau de plus en plus important que les policiers doivent investiguer. Et on est souvent là encore sur de la traite des êtres humains.
Oui. On a des informations aussi, Dominique, de la personnalité de Mohamed Amra, qui est décrit comme un barjo à la réputation d'être ultra-violent et sans limite.
Oui, mais ça, c'est la place qu'il se fait dans sa société à lui de trafiquant, de voyou, de délinquant. Celui qui tape le plus fort, celui qui fait le plus peur aux autres, et celui qui demain sera le caïd et respecté. Et vous voyez quand même ce qui se passe à Marseille. Denis Trocero est quand même un vrai spécialiste qui connaît bien. C'est-à-dire, on sort les armes, on tire, on cherche même pas à comprendre, à discuter, à se partager le terrain. C'est, on veut le terrain, on veut la zone, et on
tue. Et tous les moyens sont employés.
Oui. On tue de la même façon qu'on a tué, d'ailleurs, sur le péage. C'est la même méthode, c'est la même méthodologie.
Mais sur le profil, sur la personnalité, parce qu'on parle beaucoup, et on va y revenir sur ce rapport effectivement du Sénat et sur cette montée en puissance de la violence des grands voyous, ce profil-là, ultra-violent, sans limite, barjot, en tout cas il est décrit comme tel, c'est un profil de casse-cou qui est recherché par les gangs?
Ah oui, visiblement à l'heure actuelle, oui. Mais ça n'a plus aucune logique avec ce que l'on connaissait auparavant dans le cadre de la criminalité. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus violent, avec des actions de plus en plus débridées, hyper violentes. On n'hésite pas à tuer tout le monde, à faire des morts sur des actions comme ça. On n'a pas la logique de cette action-là, avec aussi des personnalités qui sont... à la limite de la psychopathie, hein, de manière générale. Donc,
c'est ce qui explique cette montée en gamme en matière de violence.
On a des
profils psychologiques qui sont différents.
Autant, par exemple, sur le terrorisme rejoint la folie et la folie rejoint le terrorisme. Je pense que sur la criminalité de ce type-là, qui n'est pas une grande criminalité, qui n'est pas une criminalité organisée, mais qui est une criminalité hyper violente, on est sur des profils de ce type-là.
Quand je relis le rapport des sénateurs sur l'impact du narcotrafic en France, alors ils parlent d'un pays quasiment submergé par le trafic, d'une violence débridée des organisations criminelles. Ça veut dire qu'il y a plus de peur, il y a plus de peur de l'uniforme, il y a plus de limites.
Ça fait longtemps qu'il y a plus de peur de l'uniforme et les sénateurs qui ont fait ce rapport-là ont dû constater que ça fait quand même quelques décennies que les affaires glissent de cette manière-là, de cette manière sur l'hyperviolence. Il faut savoir que sur le trafic de stupes, il y a énormément d'argent qui est en jeu. Et que le trafic de stupes, en France comme dans les autres pays...
Mais ça a toujours été le cas, il y a toujours énormément d'argent.
C'est deux mâchoires importantes. La mâchoire du bas, qui est la mâchoire des dealers locaux qui trafiquent et qui gagnent énormément d'argent et ça se répand de plus en plus parce que c'est des trafics faciles à faire. C'est des trafics faciles, ça ne demande pas une intelligence opérationnelle particulière. Alors, on ne va pas parler d'intelligence dans le domaine de la criminalité, mais quand même, c'est des trafics faciles et ça draine beaucoup d'argent. Ça, c'est la mâchoire du bas. Et la mâchoire du haut, vous avez un grand banditisme qui alors, on n'a pas un big boss avec le cigare et les pieds sur la table qui dirige les réseaux mondiaux de trafic, mais on a des narco-trafiquants, on a des mafias qui se croisent sur des réseaux cryptés et qui arrivent à passer des commandes avec énormément de fric à l'appui au niveau international. Au niveau national, on parle de 4 à 5 milliards d'argent par an. Au niveau international, on parle de milliards de milliards qui sont réinvestis. Et ces milliards de milliards, ils disparaissent pas comme ça.
Et quel est le poids de la France dans ce narcotrafic international?
Le problème des stupes, c'est pas tant les stupes en eux-mêmes, c'est l'argent. Et cet argent, il va dans les économies licites. Et actuellement, c'est ce qu'ont voulu dire sans doute aussi les députés, les sénateurs. La problématique, c'est que les économies licites, maintenant, se grisifient avec cet argent qui est employé aussi.
Mais Jean-Michel Favard, est-ce que c'est pas en train de changer? Parce que justement, on a vu aussi des études au niveau européen qui démontrent que les mafias qui sont notamment installées aux Pays-Bas ou en Belgique, où là carrément on parle de narco-État potentiel, où l'ancien Premier ministre néerlandais a été mis sous protection policière, le ministre de la Justice belge également, parce qu'il était sous la menace en fait d'un kidnapping. Nous en France, on voit de plus en plus aussi monter des formes de corruption, que ce soit de certains de vos anciens collègues, quelquefois parfois au niveau. On a des maires qui sont aujourd'hui sous le coup de procès parce qu'ils auraient été corrompus aussi. Tout le monde commence à dire que quand même ça commence à se parler, que ces mafias, ces organisations, il y en a qui importent, d'autres qui blanchissent, et que tout ceci a des ramifications qui ressemblent de plus en plus à une pieuvre très internationalisée. Quand vous dites que ça reste encore très petit, c'est parce que vous dites que ça draine beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est en train justement de grossir à un point où on n'est pas armé face à, pour répondre dans notre manière de fonctionner à ces défis-là.
J'ai pas dit que ça restait petit. J'ai dit qu'on est pris entre un étau à deux mâchoires. La mâchoire du bas qui est la mâchoire des trafics qui se sont
ubérisés,
multipliés sur le territoire national. Et ils sont même dans la ruralité et ça gagne énormément d'argent. Pour ça qu'on a de plus en plus et c'est de plus en plus violent. Et ensuite, l'étau du haut qui est au niveau international, où effectivement, là, on tient une... Quand vous maniez des milliards de milliards, forcément, à un certain moment, ben, vous allez corrompre, vous allez... Et c'est des risques sur tous les pays. Regardez, en Amérique du Sud, bon, en Amérique du Sud, c'est traditionnel, sauf que l'Équateur n'était pas dans ce schéma-là. Et l'Équateur est tombé rapidement dans ce schéma-là, avec des gens qui sont sortis de prison parce qu'ils ont acheté les matons, qui ont fait des prises d'otages dans un plateau télé et qui ont buté le procureur qui était chargé de l'enquête. Et ça arrive aussi ça commence à arriver sur...
Et l'exemple de l'Italie, qui est cité par le gouvernement, disant voilà, il faut peut-être s'inspirer de l'exemple italien, c'est ce que dit le gouvernement, avec notamment le statut de repenti. L'Italie a pendant un temps réussi à réduire l'influence de la mafia. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mafia, elle est canalisée ou est-ce qu'elle elle est en train de reprendre de la puissance?
Non, c'est-à-dire que la mafia traditionnelle, celle qu'on a connue à travers aussi les films américains du Parrain, c'est-à-dire la pieuvre sicilienne, elle a été effectivement quasiment détruite grâce au travail de l'État italien et notamment de deux juges dont on n'arrêtera jamais de saluer la mémoire, le juge Falcone et le juge Borsellino, qui ont fait un travail exceptionnel et qui ont payé avec la vie ce travail. Et donc la mafia sicilienne...
Parce que vous l'avez affronté en Italie, cette ultra-violence de la mafia.
Elle a beaucoup reculé. Ceci dit, entre-temps, quand toutes les forces du pays étaient concentrées pour lutter contre cette mafia sicilienne, il y a eu une autre mafia qui, très discrètement, a pris du pouvoir. Et aujourd'hui, je pense que c'est la mafia la plus dangereuse et la plus puissante en Europe et presque dans le monde. C'est la Camorra, c'est la mafia de Naples qui gère désormais...
Donc elle a repris la vigueur
qui gère désormais des trafics de drogue. Ce n'est même plus des bandits, c'est une industrie qui gère des rapports avec les pays d'Amérique du Sud.
Il y a des liens entre la mafia italienne et les groupes marseillais.
Il y a d'ailleurs, vous pouvez lire, il y a des livres d'un excellent journaliste, enquêteur, écrivain italien, Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, qui a fait des conférences, y compris en France, et il a beaucoup enquêté aussi sur les liens qu'il peut y avoir entre les narcotrafiquants
en Italie. D'ailleurs, il vit sous protection.
En France, il racontait, je sais pas si c'est vrai, je le dis, parce que j'ai lu le livre, il y avait c'était assez saisissant. Lui, il disait qu'à Marseille, par exemple, la drogue rentrait non pas à travers les gros bateaux cargo comme ça arrive dans certains ports dans le sud de l'Italie parce qu'ils sont pas gênés, mais à travers les régates, c'est-à-dire que ils jetaient au large de Marseille, dans la rade, des grosses caisses de drogue qui ensuite étaient récupérées de façon très discrète par des bateaux à voile qui faisaient des fausses régates et qui ramenaient tout à terre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, Saviano le raconte dans son livre. Donc, il y a des ramifications très fortes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une lutte, celle qu'on doit mener contre la drogue qui ne peut plus être considérée d'un point de vue derrière un prisme national, mais à minima européen et international. C'est pour ça que Interpol a un rôle à jouer aujourd'hui très, très important.
Mais il y a aussi une dimension diplomatique, parce que pour ça, il va falloir aussi s'attaquer frontalement aux pays qui produisent. Je pense notamment au Maroc, avec qui on a des relations diplomatiques. Il y a des pays, vous citiez l'Amérique du Sud. Les États-Unis, aujourd'hui, sont complètement dévastés par une épidémie de fentanyl. Et l'Amérique du Sud, du coup, les cartels se sont dit, comment est-ce qu'on va écouler la cocaïne qu'on produit? Eh bien, écoutez, on va descendre les prix en Europe, et puis c'est parti aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on est sur des mécanismes qui sont internationaux, et si on veut pouvoir y répondre...
Sauf que le cannabis aujourd'hui est cultivé en Andalousie à grande échelle et maintenant arrive sur la Catalogne. Donc on l'a en Europe, hein, cette culture-là.
Mais enfin, la cocaïne, en l'occurrence, elle vient d'Amérique.
La cocaïne vient toujours, toujours par le port du Havre en général.
Avant d'aller en Nouvelle-Calédonie, un mot pour clore cette thématique quand même sur la traque. Cette traque qui se poursuit depuis plus de 48 heures. Il y a 350 enquêteurs qui sont en train d'essayer de remonter le fil. Hein. C'est le chiffre qui a été donné ce matin par Gérald Darmanin. Plus de 48 heures après, on a aucune information. Est-ce que ça signifie que les enquêteurs enfin l'enquête est au point mort, ou est-ce que ça signifie que potentiellement qu'il y a aussi peut-être de la rétention d'infos qui est faite et qu'on ne sait pas tout?
Normalement, les policiers n'ont pas à nous tenir informés de l'état d'avancement.
Oui, mais on l'est informé grâce à vos bons renseignements.
On espère que ça va avancer vite. En tout cas, il y a un élément précieux, c'est cette fameuse voiture qui n'a pas brûlé, cette 3008. La police scientifique travaille dessus.
Pour l'instant, notre connaissance, ça n'a rien donné. Enfin, en tout cas, c'est en cours d'exploitation.
On va dire que nous, on est vigilants, on est prêts à se lever de bonne heure le matin.
Parce que tous les autres se couchent tard,
j'attends la suite.
On est prêts à se lever de bonne heure le matin parce que
à l'heure où on frappe aux portes dans les perquisitions.
Alors, je l'avais pas. Pardon, Dominique, je l'avais pas. J'avais pas compris. On était deux en plateau à la mort.
Excusez-moi, c'est quand même un humour de police-justice.
Non, c'est pas l'humour. C'est qu'on est prêts à se lever de bonne heure. Un jour, j'ai reçu un message comme ça d'un contact qui m'a dit.
Ça peut se faire hors heure légale.
Un SMS sur WhatsApp, lève-toi de bonne heure. Le lendemain, il y a un grand voyou qui était en cavale.
Vous avez reçu un message pour demain matin, lève-toi de bonne heure?
J'ai rien reçu là pour l'instant.
Vous nous faites signe si vous avez un message. Merci à vous tous.